À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Splatoon 3. On aura ensuite le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news concernant le jeu Dune Spice Wars. On aura ensuite une news technologie avec le premier train à hydrogène au monde qui entre en service en Allemagne. Et on finira avec les quelques petites sorties de la semaine. On commence donc avec le jeu Splatoon 3, donc c'est un jeu vidéo de tir à la troisième personne et d'action, qui est jouable en solo et en multijoueur. Il a été produit par Hisashi Nogami, développé par Nintendo EPD et édité par Nintendo. Il est sorti le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch, incorporant toujours la peinture au cœur de sa jouabilité. Ce troisième épisode intègre de nouvelles techniques et armes, ainsi que la contre-éclabousse, un nouveau lieu d'affrontement. Le jeu est classé PEGI 7 et il obtient une note de 17 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 7 sur 10 de la part de Gamekult. Donc après un premier jeu sorti en 2015 sur Wii U, Splatoon est devenu une licence incontournable de Nintendo. 5 ans après le lancement du second épisode, la saga s'offre un nouvel opus qui s'annonce plus généreux que jamais. Avec de telles ambitions affichées, Splatoon 3 a-t-il de quoi s'imposer comme une expérience multijoueur incontournable de la Switch ? Donc pour ceux qui n'ont jamais joué à Splatoon, petit rappel de ce que propose la série. Dans les grandes lignes, Splatoon est un jeu de tir à la troisième personne, dans lequel on incarne des Inklings ou des Octolings, des enfants mi-humains mi-calamars qui s'affrontent grâce à des armes qui projettent de la peinture. Puisque le titre est avant tout pensé pour le multijoueur, une partie classique prend la forme d'une guerre de territoire, dans laquelle deux équipes de 4 joueurs s'opposent. Pour remporter la victoire, il faut donc recouvrir avec son encre un plus grand pourcentage de la carte que ses adversaires. Si les armes ont des utilisations différentes, elles se rechargent toutes lorsqu'on plonge dans un sol aux couleurs de notre équipe sous forme de calamar. Cette transformation permet aussi de se déplacer beaucoup plus vite, ce qui est très pratique pour rejoindre le cœur de l'action ou fuir une situation délicate. Au-delà de leur aspect urbain branché, les vêtements jouent également un rôle important, car ils font bénéficier de bonus passifs décisifs qui facilitent grandement la vie une fois en partie. Évidemment, Splatoon 3 reprend ce gameplay commun à tous les jeux de la franchise, tout en apportant son lot de nouveautés. Donc si la saga est avant tout connue pour être une expérience multijoueur, Splatoon 3 propose un mode histoire comme ses deux prédécesseurs. Cette fois, la campagne est intitulée « Le retour des mammifériens » dans lequel notre Inkling fait la rencontre de l'amiral Macalamar, persuadé que les Octariens ont volté une fois de plus le poisson-charge qui sert de principale source d'énergie à Cité Clabousse. Après avoir été nommé numéro 3 de l'escadron Espadon, on explore le cratère avant de tomber sur une étrange matière poilue qui semble affecter l'armée octarienne. Par une suite d'événements, le sol de la zone finit par s'écrouler et à notre réveil, plus aucun signe de Macalamar. C'est alors que l'on se retrouve dans une sorte de banquise appelée Alterna et que l'on fait la rencontre du reste de l'escadron Espadon qui comporte notamment un Inkling peu bavard, ainsi que Dayo et Oli, les petites filles de l'amiral qui vont nous aider à sauver leur grand-père disparu. Alterna est donc une zone qui sert de hub pour accéder aux nombreux niveaux qui composent le mode histoire. Une fois complété, ces derniers apportent des œufs qui permettent à votre sale mioche, donc c'est le nom du petit poisson qui vous accompagne, de détruire la matière poilue pour débloquer des endroits à découvrir et donc de nouveaux niveaux. Avec tant de choses à découvrir, il devient vite plaisant d'explorer les 6 îles qui composent l'archipel d'Alterna. Chaque coin comporte son lot de secrets, avec des mines cachées dans le sol qui renferment aussi bien des documents sur l'univers de Splatoon que des œufs de poisson ou encore des éléments de personnalisation pour votre casier. Si vous souhaitez explorer de fond en comble chaque recoin d'Alterna, vous en aurez donc pour un moment, mais puisque la zone est librement parcourable, les plus pressés pourront toujours aller vite pour atteindre la fin d'une île et voir rapidement le bout de l'histoire. Il y a tout de même un intérêt à bien explorer cet archipel, car c'est comme ça que l'on obtient des sardines et des points d'amélioration qui peuvent être dépensés dans un arbre de compétences afin de bénéficier de bonus passifs bien pratiques. Si l'exploration de son hub est très agréable, la grande force de la campagne de Splatoon 3 réside surtout dans la qualité de ses niveaux. Tout au long de l'aventure, on a droit à beaucoup de variétés, avec aussi bien de pures séquences de tir que des phases de réflexion, de plateforme ou de rail shooter. Parfois, certains stages proposent des contraintes intéressantes pour maîtriser convenablement les différentes mécaniques du jeu, comme interdire aux joueurs de tirer, empêcher la recharge ou encore obliger à ne se servir que d'une arme secondaire. Et puisque l'équipement est imposé la plupart du temps, cela permet aussi de se familiariser avec des armes que l'on retrouve plus tard en multijoueur. Les décors sont l'autre grand point fort des niveaux de Splatoon 3 par leur originalité et leur étrangeté qui leur confèrent un aspect fascinant qui rappelle parfois l'esthétique vaporware. Et pour ce qui est de la bande-son, cette dernière est une fois de plus fantastique, au croisement de nombreux genres comme la série nous y a toujours habitués. Ainsi, par la variété et la qualité de ses niveaux et son hub sympathique à explorer, le mode histoire de Splatoon 3 est une vraie réussite qui aura de quoi vous occuper entre 10 et 15 heures, en fonction du temps que vous souhaitez y passer. Voilà, et donc en parlant de bande-son, on va pouvoir s'écouter tout de suite Hero Mode Alterna 8, une musique extraite de l'OST du jeu Splatoon 3, et on revient juste après pour la suite du test. Donc c'était Hero Mode Alterna 8, une musique extraite de l'OST du jeu Splatoon 3. On va donc continuer avec la suite de ce test. Donc après ce sympathique mode histoire, le multijoueur reste le cœur de l'expérience Splatoon. Ainsi, on retrouve la guerre des territoires qui reste le principal type de partie proposée. Au niveau des nouveautés, Splatoon 3 comporte 12 cartes au lancement, dont 4 issues du précédent épisode. Donc évidemment, c'est moins que ce qu'offrait Splatoon 2 en fin de vie avec ses 23 maps différentes, mais c'est quand même plus que les 8 stages disponibles à son lancement en 2017. Et pour ce qui est des cartes inédites de Splatoon 3, elles profitent d'un level design efficace typique de Nintendo, avec des décors qui évoluent au fur et à mesure que le jeu progresse, pour des affrontements toujours plus nerveux. La guerre de territoire n'est bien sûr pas le seul mode disponible, puisqu'on en retrouve une grande variété dans les matchs anarchie. Ainsi, la défense de zone, l'expédition risquée, la mission Bazookarp ou la pluie de palourdes font leur retour comme dans Splatoon 2 et proposent des parties encore plus intenses. Si son multijoueur ne brille pas de nouveautés avec seulement 8 maps inédites, Splatoon 3 ajoute tout de même des mouvements et des armes inédites qui apportent un vent de fraîcheur. Cet épisode introduit en effet deux mécaniques pour se déplacer plus efficacement à travers les maps. Tout d'abord, on a la vraie Calmar qui permet de bondir dans la direction opposée sous forme de mollusque pour profiter d'un petit bouclier qui protège de l'encre ennemie. Et ensuite, on a la déferlante Calamar qui permet de se propulser dans les airs en chargeant son saut en étant accroché à un mur. S'il faut du temps pour maîtriser correctement ces mécaniques, ces dernières s'avèrent fort pratiques dans des situations bien précises. Et qui dit nouvel épisode de Splatoon dit aussi arme inédite. De ce côté-là, on nous propose le transperceur et l'éclatana, respectivement un arc et un katana. Avec leur prise en main singulière, elles demandent un certain temps d'adaptation pour exploiter pleinement leur potentiel face aux autres armes aux cadences rapides. En plus, Splatoon 3 propose surtout de nouvelles armes spéciales toujours aussi novatrices et amusantes, comme le crabe d'assaut qui prend la forme d'un petit tank, le haut perceur qui projette des lignes sur vos adversaires ou encore le super mollusque qui permet d'utiliser un grappin. Si tous ces outils apportent un vent de fraîcheur, il faut reconnaître que les nouveautés dans le mode multijoueur de Splatoon 3 ne sont pas légion et qu'on reste sur une expérience grandement similaire à celle de son prédécesseur, surtout en coopération. Donc pour offrir l'expérience la plus complète possible, Splatoon 3 comporte, en plus d'une campagne et d'un multijoueur, un mode coopération tout droit hérité de Splatoon 2. Et si vous n'avez jamais joué à ce dernier, je vous rappelle que le Salmon Run propose à 4 joueurs de survivre face à des salmonoïdes sur une carte de petite taille avec pour contrainte de changer aléatoirement d'arme à chaque nouvelle vague. Pour passer à l'étape suivante, il faut récolter un certain nombre d'œufs dorés que l'on obtient après avoir vaincu des salmonoboss. Donc là où la coopération entre joueurs est importante, c'est qu'il n'est possible de transporter qu'un seul œuf à la fois, ce qui demande à chacun de faire sa part du travail. Avec un principe aussi simple mais efficace et diablement addictif, le Salmon Run est rapidement devenu l'un des modules de jeu les plus populaires de Splatoon 2, notamment grâce aux challenges proposés dans ses niveaux de difficulté les plus élevés. Dans Splatoon 3, ce mode permet de progresser dans le catalogue, une sorte de battle pass qui débloque de nouveaux objets plus vous jouez. Pour ne pas changer une équipe qui gagne, Splatoon 3 reprend la formule de son prédécesseur qui a fait ses preuves à la lettre près, mais apporte quand même son lot de nouveautés. D'abord, on a bien évidemment droit à de nouveaux salmonoboss, comme le couverclard ou le gros boulet, qui demandent de bien maîtriser leur pattern pour en venir à bout, mais aussi à des ennemis encore plus puissants avec les salmonarques. Autre subtilité inédite qui n'a l'air de rien, il est désormais possible de lancer les œufs dorés au lieu de devoir toucher le panier pour valider la prise. Grâce à ça, on peut autant gagner du temps que passer l'objet à l'un de ses coéquipiers. Si ces quelques nouveautés sont sympathiques, il faut reconnaître qu'elles ne sont pas nombreuses et qu'elles ne changent pas grand-chose par rapport à l'expérience proposée dans Splatoon 2, ce qui reste une remarque générale que l'on peut faire au jeu. En plus de vouloir proposer l'expérience la plus complète, Splatoon 3 met particulièrement l'accent sur ses possibilités de personnalisation et les petits à côté. Cela se retrouve d'abord dans l'équipement qui permet comme d'habitude de profiter de différents bonus bien pratiques en multijoueur. Mais la grande nouveauté de cet épisode, c'est de pouvoir modifier ces bonus en allant parler à Typique, un personnage qui traîne à côté du hall. Contre une importante somme d'argent, vous pouvez aussi bien réinitialiser les passifs d'un vêtement que lui en appliquer de nouveaux pour enfin obtenir l'équipement de vos rêves. De quoi faire plaisir aux joueurs acharnés des précédents épisodes qui ont réclamé cette fonctionnalité depuis longtemps. Donc tous ces éléments de personnalisation se ressentent surtout dans les aspects purement esthétiques. Ainsi, la plaque de joueur peut être entièrement modifiée avec un titre et un fond différents, tandis que le casier est l'autre nouveauté de cet épisode. C'est là-dedans que vous pouvez placer les nombreux objets achetés chez Coolipso ou ceux récupérés dans le catalogue contre des points gagnés en match. D'ailleurs, ce catalogue fait grandement penser à un Battle Pass puisqu'il permet de débloquer de nouveaux éléments plus vous jouez et qu'il se renouvelle à chaque saison, ce qui pousse donc les joueurs à rester sur le titre un maximum pour être sûr de ne rien manquer. Au-delà de ça, Splatoon 3 est un titre qui a conscience des reproches qui ont été faits à ses prédécesseurs. Cela se ressent par le fait qu'il est enfin possible de passer les missions qui se déclenchent lorsqu'on lance le jeu pour nous présenter les maps du jour, mais aussi car le lobby permet désormais de s'entraîner en attendant de trouver une partie. Deux petites subtilités donc, mais qui rendent l'expérience plus confortable. Pour compléter ce tour de Splatoon 3, on va terminer par évoquer donc cartes et territoires, le jeu de cartes inédit à cet épisode. Le principe de ce mini-jeu est assez simple puisqu'on dispose de 20 cartes et qu'en 12 tours, le but est de recouvrir une plus grande zone que son adversaire sur le terrain quadrillé. Un jeu de cartes assez sympathique en soi dont on peut récupérer des boosters de différentes façons en progressant dans le catalogue par exemple. Donc pour résumer les points forts, on a un jeu, un mode solo fun et complet à la Octo Expansion, un multijoueur et de la coopération toujours aussi efficace, un gameplay qui gagne en subtilité grâce à de nouveaux mouvements, une personnalisation plus poussée que jamais, une esthétique urbaine et branchée toujours originale et une bande-son fantastique. Pour les points faibles, on n'a pas de nouveauté majeure par rapport à Splatoon 2, seulement 12 cartes, dont 4 déjà vues au lancement, et une montée de niveau assez lente en multijoueur. Splatoon 3 est donc l'aboutissement de sa propre formule avec une expérience plus complète que jamais. En s'inspirant de l'Octo Expansion, ce nouvel épisode propose un mode histoire fun par la diversité de ses niveaux et son hub agréable à explorer. Le titre n'oublie pas pour autant ses fondamentaux avec un multijoueur efficace, comme à l'accoutumée, qui profite de nouveaux mouvements subtils et d'armes inédites. Et si le Salmon Run est toujours aussi sympathique, ce qu'il propose ressemble beaucoup à ce qu'on a connu dans Splatoon 2. Sa grande proximité avec son prédécesseur est le principal reproche qu'on peut faire à ce troisième opus, mais il n'en reste pas moins une excellente nouvelle exclusivité pour la Nintendo Switch. Voilà. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre musique extraite de l'OST du jeu Splatoon 3, c'est Hero Mode Alterna 5, et on revient juste après. Donc c'était la musique Hero Mode Alterna 5, une musique extraite de l'OST du jeu Splatoon 3. On va maintenant faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour parler des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, du news jeux vidéo, du news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5, toutes plateformes confondues, on a en 5ème place Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 4ème place c'est The Last of Us Part 1 sur PS5, un jeu de Sony. En 3ème place c'est NBA 2023 sur PS4, un jeu de Take-Two Interactive. En deuxième place, c'est NBA 2023, cette fois sur la PS5. Et en première place, c'est donc Splatoon 3 sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en troisième place Horizon Forbidden West. En deuxième place, c'est The Last of Us Part 1. Et en première place, c'est NBA 2023. Le top 3 pour la Xbox Series, on a en troisième place Centro, l'édition Day One. En deuxième place, c'est NBA 2023, l'édition Championnat. Et en première place, c'est NBA 2023, l'édition Normale. Le top 3 pour la PS4, c'est exactement le même que pour la Xbox Series. Donc, à part que la deuxième place est pour NBA 2023, mais l'édition Michael Jordan. Voilà. Ensuite, pour la Xbox One, on a en troisième place GTA V, l'édition Premium. En deuxième place, c'est F1 22. Et en première place, NBA 2023. Le top 3 pour la Nintendo Switch, on a en troisième place Animal Crossing New Horizons. En deuxième place, Mario Kart 8 Deluxe. Et en première place, Splatoon 3. Et enfin, le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en troisième place les Sims 4 Année Lycée. En deuxième place, les Sims 4 l'édition standard. Et en première place, c'est Farming Simulator 22. On passe maintenant à la news de jeux vidéo. Les conflits vont désormais redoubler d'intensité sur Dune, où viennent de débarquer les légions de Sardaukar de l'Empire, tant redoutées à travers tout l'Imperium. L'arrivée de ces soldats d'élite porte à 5 le nombre de factions jouables dans Dune Spice Wars, inspirée de l'œuvre de Frank Herbert. Qui s'appropriera le contrôle de l'épice, ressource la plus précieuse de l'univers de Dune ? Conforme aux manœuvres géopolitiques de l'univers tentaculaire propre à la saga littéraire de Frank Herbert, le jeu de stratégie en temps réel 4X Dune Spice Wars, actuellement jouable en accès anticipé sur Steam, souhaite la bienvenue à une nouvelle faction et pas n'importe laquelle. Leur cruauté sans limite en a fait la faction la plus redoutée de tout l'Imperium. Les Sardaukar de la maison impériale de Corino viennent donc de débarquer sur Dune pour affirmer leur domination, et cela risque de bouleverser drastiquement l'équilibre des forces sur l'échiquier géopolitique de Dune Spice Wars. Disponible depuis le mois d'avril en accès anticipé, le jeu de stratégie 4X continue de se développer dans le respect de l'œuvre originale, en déployant ici sa seconde mise à jour d'envergure. Donc cette mise à jour majeure est la deuxième des 4 étapes annoncées jusqu'au lancement, avec plusieurs mises à jour plus petites qui apporteront des fonctionnalités mineures supplémentaires, un équilibrage et des améliorations de la qualité de vie. Afin d'illustrer de manière concrète les effets de cette mise à jour d'ampleur, les équipes de Funcom et Shiro Games diffusent également une bande-annonce entièrement dédiée à la maison impériale Corino. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez facilement la retrouver sur Internet. En tant que maison Corino, exercer une influence sur les autres factions en manipulant le marché de la Shoham, ainsi que le Landsrad. Si tout le reste échoue, déployez les impitoyables Sardaukar pour écraser votre opposition. Les connaisseurs de la saga littéraire Dune se doutent que l'arrivée de cette nouvelle faction dans l'univers de Dune Spice Wars implique que le titre accordera une place de choix aux figures iconiques de la maison Corino. L'empereur Padishah Shaddam IV ne sera pas le seul à entrer en scène aux côtés de ces impitoyables Sardaukar. Sa fille, la princesse Irulan, ainsi que sa sœur Wensizia Corino sont également conviés à venir troubler l'échiquier politique et stratégique en dressant les autres factions les unes contre les autres, tandis que le capitaine Aramsham et le manta assassin Asimir Fenring viendront faire le ménage sur le terrain. De quoi approfondir encore plus les possibilités stratégiques offertes par Dune Spice Wars, qui bénéficie par ailleurs d'une promotion de 20% sur Steam jusqu'à la fin du week-end. Donc si ça vous intéresse de le tester, c'est le moment. On passe maintenant à la news technologie. Le train à hydrogène Coradia eLint est un train conçu avec un moteur alimenté à l'hydrogène. Donc c'est une innovation pour l'économie puisque c'est une première dans l'histoire de l'humanité que les transports ferroviaires commencent à utiliser l'hydrogène comme source d'énergie. En effet, ils sont similaires aux voitures hybrides, mais ils sont en plus dotés de batteries capables de stocker l'énergie. Et ce n'est pas tout, l'hydrogène se recharge automatiquement lors du freinage. Des essais opérationnels ont déjà été effectués en 2016, et actuellement la mise en ligne des trains a été inaugurée en Allemagne et sera déjà prête à relier toutes les lignes ferroviaires allemandes. Donc j'avertis dès maintenant, je risque d'écorcher très sévèrement les noms allemands, donc pardonnez-moi, hein, mais voilà. Donc cela faisait 4 ans que le projet effectuait des essais. Durant cette période, le concepteur a mis à disposition des testeurs deux trains à pile combustible. Donc les trains ont suivi un itinéraire défini et ont été au service de, alors, l'Eisenbahn und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser. Voilà. Actuellement, le concepteur met à la disposition du grand public 14 de ces trains, mais uniquement 5 parmi eux sont en service et le reste sera opérationnel d'ici la fin de l'année. Le ministre des Transports de Basse-Saxe avait acheté ce projet aux concepteurs, qui sont les ingénieurs d'Alstom à l'usine de trains régionaux de Salzgitter en Allemagne et au centre des systèmes de traction de Tarbes en France. À savoir que l'autorité ferroviaire nationale, mon dieu, Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersächsischen MBH, voilà, je n'ai certainement pas dit toutes les lettres, mais il y a beaucoup trop de consonnes dans cette langue. Donc, plus facilement, c'est la LNVG, voilà. Donc, cette autorité ferroviaire avait déjà entrepris des recherches sur l'alternative au moteur diesel depuis 2012 et elle s'est engagée à n'acheter que des moteurs non-diesel. Les trains à hydrogène émettent uniquement de la vapeur d'eau condensée et ils ont une autonomie de 1000 km, c'est-à-dire que chaque train sera doté d'un seul réservoir d'hydrogène qui sera donc sa capacité journalière. Les ingénieurs l'ont conçu pour terminer un service en reliant alors Cuxhaven, Bremerhave, Bremervoorde et Buxtehude. Donc durant ce service, les trains pourront rouler à une vitesse de 80 à 120 km/h, mais ils auront aussi la possibilité d'atteindre les 140 km/h. Au cours de la journée, les trains recevront quand même une recharge à la station-service d'hydrogène de Linde, qui se situe à Bremervoorde. En effet, la station abrite environ 64 réservoirs de stockage à haute pression avec 6 compresseurs et 2 pompes à carburant. Après la conception des trains, les ingénieurs tentent de produire de l'hydrogène via l'électrolyse et l'électricité générée de manière régénérative. Voilà. On va maintenant pouvoir finir l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine, donc il n'y en aura pas beaucoup. On en a eu 2 aujourd'hui vendredi 23 septembre. Avec Shovel Knight Dig sur PC, Nintendo Switch et PS4 et Rumble sur PC. On aura une sortie demain samedi 24 septembre sur PC avec Agno. Une autre lundi 26 septembre avec World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic qui sortira sur PC. On aura ensuite une autre sortie mardi 27 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series avec le jeu Moonscars. Et enfin, les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 29 septembre avec Valkyrie Elysium sur PC, PS5 et PS4. Et on aura également Boonbreaker qui sortira sur PC.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble, que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchéfette.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.